La réponse à la question qu'on posait sur compositeur-interprète, c'est-à-dire que le compositeur a composé, les interprètes vont faire la musique, c'est ça?
Absolument, oui.
Ouais, bon, très bien.
Non, mais c'est important. Puis je reprendrai ce mot de Paul Bocuse, à qui un jour on demande qui fait la cuisine lorsque vous n'êtes pas là. Et très calmement, il répond les mêmes que lorsque je suis là.
Très bien.
Le pâté spécial du Brabant.
Mais mon cher hôte, qu'a-t-il de spécial ce pâté?
Comment? Vous ne connaissez pas le pâté du Brabant? Permettez-moi.
C'est un pâté qui va faire le dîme, vous mêlez de jambon, de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon, qu'il est bon. C'est un pâté qui renferme du vous mêlez de jambon,
de jambon.
C'est un pâté qui renferme du vous mêlez de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
C'est pas un mot de la séquence, en attendant, nous venons vous faire une expérience.
Alors, aujourd'hui, le pâté en croûte, un plat médiéval, on est bien d'accord, hein, le pâté en croûte, c'est quand même un pléonasme, parce que si c'est un pâté, il y a de la pâte, sinon c'est une terrine. Bon,
Non, mais je crois que ce terme pâté en croûte, en fait, marque plus une forme de farce, quoi, que le pâté en croûte est une composition différente des autres terrines.
Il y a la croûte, quand même.
Il y a la croûte, mais même la farce à l'intérieur, j'ai le souvenir. Pâté en croûte.
Ah ben alors justement, je vous propose la recette.
Allez-y alors, allez-y.
On part d'une recette d'une recette lorraine. Hein. Il y a un gars qui s'appelle Jean-Marie Cuny, qui a fait plus ou moins compte d'auteur, un livre extraordinaire qui s'appelle La cuisine lorraine. Bon, la cuisine lorraine était merveilleuse dans le temps. Et moi, quand j'étais petit, il y avait quand même dans les Vosges ce pâté, hein, qui était un truc incroyable, où il y avait donc une pâte brisée au fond, une pâte feuilletée par-dessus, et puis viande de veau et porc mélangée, avec des oignons, de l'ail, du persil, du quatre épices, du sel, du poivre. Et c'était le bonheur, quoi. Enfin, je le sens encore. Hein. Alors, je vous lis la recette qu'il propose. Hein. Nous dérivons à partir de cette recette. Nous divagons à partir de cette recette. Alors, pâté lorrain. Se fait le plus souvent avec du veau et du porc mélangés, entre parenthèses, un bon kilogramme. Foncer un moule à pâté de pâte brisée, garnir le fond et les parois d'une fine couche de farce de votre préparation, ou de chair à saucisse, placer des couches d'escalope de l'élément principal, assaisonné et mariné de la veille, alterner avec des couches de barde de lard ou lardon, compléter jusqu'à hauteur, recouvrir de farce, d'une barre de lard ensuite, et d'un couvercle de pâte. Badigeonner avec un œuf, décoré de dessins faits avec la pointe d'un couteau, et cuire. Voilà. Alors, on part de là. Ça vous va?
C'est pas très détaillé.
Non, oui.
C'est pas très très détaillé.
Vous le feriez comme ça, ou?
Oui, bon, la farce, je pense que, bon, déjà, j'éliminerais d'emblée la chair à saucisse, c'est évident qu'il n'a...
C'est évident pour vous, mais pas pour moi, pour que vous aimiez la chair à saucisse. Moi, j'aime bien la chair à saucisse, non? Ça va pas?
Je trouve que la chair à saucisse dans la saucisse, oui, mais pas bon. Il y a un autre plat où moi j'évite, mais où je repousse même la chair à saucisse. Et c'est un plat tout à fait de saison. Ce sont les tomates farcies. Les tomates farcies avec la chair à saucisse, pour moi, ce ne sont pas des tomates farcies.
Ah oui, alors donc là, c'est pas un pâté lorrain s'il y a de la chair à saucisse. Bon, il parle d'escalope, mais il dit pas de quelles escalopes.
On oui, mais ça peut être après. Bon, je pense de volaille, de veau, ça.
Oui, ils ont eu peur dans la tradition.
En fait,
hein.
Pour moi, le pâté en croûte, c'est très peu de farce fine et beaucoup de gros morceaux.
D'accord.
Et également entre la partie protéine, c'est-à-dire la partie farce.
Ouais, chair.
Chair et la partie croûte.
C'est quand même incroyable. On invite des cuisiniers et ils disent des mots de chimie. C'est moi le chimiste.
et de la partie croûte, il doit y avoir, vous savez, cette formidable gelée qui fait le soyeux du pâté en croûte.
D'accord. Alors, il fait mariner dès la veille, il dit pas dans quel vin. En Lorraine, c'est quoi? C'est un gris de Toul?
Non, mais marinade.
On fait venir d'Alsace.
Alors, marinade.
Un bon Riesling?
Non, mais marinade ne veut pas dire forcément dans le, enfin, en tout cas, moi, je sais pas, vous avez peut-être la définition exacte, mais pour moi, mariner, déjà, même si je mets sur en prenant un rable de lièvre ou une farce de veau, même si je mets quelques grains de poivre, une branche de thym, une pointe de laurier et un peu d'huile d'olive, pour moi, c'est déjà une marinade.
Ouais, c'est, voilà.
Non, mais c'est vrai que lorsqu'on dit marinade, on a tendance à penser vin. Mais moi, je pense pas forcément vin. Marinade, c'est une espèce de manière d'apporter déjà un assaisonnement à un produit qui n'est pas encore cuit, donc qui est cru, sans que ça trempe véritablement.
D'accord. Bon, on est déjà parti sur votre cuisine, on a déjà dérivé, on n'est pas resté très longtemps. Donc on est prêt maintenant à aller plus en profondeur dans le pâté en croûte. Chapitre 2 de notre émission consacrée au pâté en croûte en compagnie de Guy Savoy, donc cuisinier 18 Trottrevion. Alors, Guillon, cette fois-ci, là, dans notre chapitre 2, traditionnellement, enfin, c'est une tradition qui commence cette semaine, mais qui dure jusqu'à la fin du mois d'août, hein, on parle donc des dictons, tour de main, l'histoire du plat. Bon, l'histoire, ce plat-là, il est dans la nuit des temps. Il y avait tous ces nobles lorrains qui déjà servaient des choses comme ça. Ça, c'était aussi bien au brochet que à la viande. Des dictons, vous en connaissez? Des pratiques culinaires étonnantes à ce propos?
À propos du pâté en croûte. Alors là, je.
D'ailleurs, par exemple, vous mariner dès la veille. Dès la veille. Pourquoi la veille?
Oui, pour qu'il y ait un temps, je dirais, pour qu'il y ait le temps suffisant pour que le produit que l'on a mis à mariner profite des ingrédients de cette marinade. Pour que justement la chair, quelle qu'elle soit, que ce soit de la viande, du poisson, de la volaille, des abats, pour qu'on ait déjà un assaisonnement, je dirais, de fond, pour avoir une longueur dans l'assaisonnement, ce qui sera beaucoup plus, qui atteindra beaucoup plus le cœur de l'aliment. D'ailleurs, il y a qu'à voir si demain vous cuisez un morceau de, une cuisse de volaille. Vous ne l'assaisonnez pas du tout avant cuisson, vous la faites cuire sans aucun assaisonnement, vous la sortez, et au dernier moment, vous mettez un petit peu de gros sel et du poivre dessus. Il va arriver un moment où cette volaille, elle n'aura pas une régularité d'assaisonnement. Alors que si vous la salez déjà au départ, avant de la cuire et tout ça, même si vous remettez quelques grains de fleurs de sel à la fin, vous aurez, je dirais, l'ensemble du morceau, enfin de la bête et du morceau qui sera régulièrement assaisonné. On a le même problème avec tous les produits.
C'est ça, le sel aura tiré un peu de jus de la volaille, donc ça sera réparti et puis on aura tout bien et on remet ensuite des grains pour avoir du croquant.
C'est valable pour tous les aliments. Si vous cuisez des haricots verts et que vous ne salez pas l'eau de cuisson, vous aurez beau les saler après, vous n'aurez jamais
déjà le degré de sel qu'on souhaite.
Déjà, vous ne garderez pas la couleur. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et là,
on ne gardera pas la couleur. C'est une chose douteuse, d'ailleurs. Hein. Selon les haricots, il semble qu'on puisse garder la couleur. C'est une question compliquée.
Si on met pas le couvercle dessus.
Mais non, le couvercle. En ce moment, on fait des études qui montrent que la couleur change pas si avec couvercle ou pas. Ou pas
ah bon
couvercle. Ah oui, on est très ennuyé parce que justement, on l'a dit longtemps et.
Non, mais surtout, ce qui les fait noircir, c'est lorsqu'on les sort chauds et qu'on les laisse refroidir entassés chauds. Ça, c'est sûr.
Quand il y a une grosse masse, oui. Quand il y a une petite masse, on a fait encore l'expérience il y a pas longtemps sur des brocolis et sur des haricots verts. On avait donc cuit des haricots verts. On les sort, on met la moitié dans une égouttoire où ils sont entassés. Bon, c'est de l'ordre de 300 grammes, donc il n'y a pas une grosse masse. Je suis bien d'accord. Hein. Et l'autre moitié dans de l'eau avec des glaçons, on n'a pas vu de différence de couleur. Mais il faut bien avouer que je prends la précaution de dire que c'était une petite masse.
Une
grosse masse, ça reste très chaud en soi. Voilà. Et ça continue à cuire.
Or,
le fait que ça continue à cuire, c'est ça qui fait noircir.
Qui modifie la cuisson.
Oui, brunir. Oui. Quand c'est trop cuit, c'est. Oui, alors, tiens, on est déjà bien parti. On dérive tout le temps avec vous, hein. On reste jamais sur le pâté en croûte. Hein. Alors, il va falloir passer quand même au troisième chapitre. Troisième chapitre de notre émission consacrée au pâté en croûte en compagnie de Guy Savoy qui a décidé aujourd'hui de ne pas parler de pâté en croûte. Alors, Guy, moi j'essaye de vous proposer ma description du pâté tel que je le comprends. Bon, c'est un plat compliqué, il y a de la pâte et puis il y a la farce. Alors, la farce, je vais m'intéresser à la farce aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. La farce, c'est de la chair. Je sais que la viande ou le poisson, c'est des fibres qui contiennent comme du blanc d'œuf. Et le blanc d'œuf, je sais que quand je le chauffe, il coagule. Donc il devient quelque chose de dur. Oui, mais alors je sais aussi que si je broie ma viande, je libère toutes mes protéines qui sont à l'intérieur de mes fibres musculaires. Ces protéines vont faire comme du blanc d'œuf dans le fond. Et donc si je mets de la viande broyée, ou de la chair, ou n'importe quoi broyée dans un pot que je chauffe, je vais faire une coagulation comme du blanc d'œuf. Mmh. Alors donc, pâté égale blanc d'œuf qui coagule, quoi. C'est tout simple. Mais ce que je sais aussi, c'est que dans le blanc d'œuf, il y a seulement 10% de protéines. Alors que dans la viande, il y en a beaucoup plus. Et du coup, j'aurais tendance à me dire, puisque je peux coaguler un blanc d'œuf qui contient quand même 90% d'eau, si je fais de la chair toute seule, ça va faire quelque chose d'assez dense, hein. Ça va faire quelque chose de bien ferme, hein. Donc, la terrine habituelle, c'est dur, quoi. Donc, j'aurais tendance, en tant que physico-chimiste, à proposer tout de suite de rajouter de l'eau, et de l'eau qui ait du goût. C'est-à-dire, dans ma chair bien broyée, je vais y mettre un liquide qui ait du goût, bouillon, vin, etc. Donc, je vais détendre ma chair. Ça prendra pareil à la coagulation, et ça aura une texture qui est plus tendre.
Mais vous avez l'exemple, vous citez l'exemple du blanc d'œuf, mais pour revenir, pour clarifier un bouillon, quand on voit avec un demi-blanc d'œuf tout ce qu'on peut précipiter comme impureté...
Ah, et vous avez dit, il faut que vous expliquiez, Guy, vous parlez à des néophytes comme moi, clarifier un bouillon, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que vous avez, il y a une technique en cuisine, vous avez fait un pot-au-feu qui a bouilli un peu fort et qui a troublé. Vous avez donc pas un bouillon translucide, vous avez un bouillon trouble.
C'est grave,
avec,
ça.
Avec plein de particules. Oui, il y a
ça vous ennuie d'avoir qu'il soit trouble? Parce que le goût va changer ou
non, mais ça dépend. Mais si vous voulez faire avec ce bouillon une gelée, elle est bien plus belle lorsqu'elle est translucide. Vous allez mélanger.
Là, on anticipe sur notre chapitre 4. Bien plus belle, la beauté dans l'œil de celui qui regarde. Mais est-ce qu'elle est, donc vous la préférez plus translucide?
Oui, alors à ce moment-là, on a une technique très simple en cuisine qui est de battre un blanc d'œuf avec quelques aromates pour quand même que ce blanc d'œuf ait du goût et ne vienne pas à la fois neutraliser toutes les impuretés physiques et puis le goût.
Affaiblir le goût.
Voilà, et affaiblir le goût. Donc, on mélange ce blanc d'œuf dans ce bouillon, on le remonte très 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 doucement à température, et on a le blanc d'œuf qui a la propriété de ramasser toutes les impuretés, viennent se coller autour de ce blanc d'œuf, et on rend le bouillon bien plus...
Donc vous filtrez ensuite. Donc vous coagulez, voilà, les impuretés, voilà, et ensuite vous filtrez.
Absolument.
Donc la clarification. Bon, ben, on est au terme de notre chapitre 3. Déjà, ça passe vite, on n'a pas le temps de discuter, c'est effroyable. Alors, nous y allons maintenant pour parler d'art. Chapitre 4 de notre émission consacrée au pâté en croûte en compagnie de Guy Savoie. Guy Savoie, le chef de restaurant rue Troyon, et puis des Buts Chaillot. Les Buts Chaillot, les Buts Chaillot. La Buts Chaillot, les bouquinistes, l'atelier de Maître Albert et bientôt le Chibertin. Et qui ouvre quand d'ailleurs?
Fin août. Fin août, début septembre.
Donc très bientôt.
Absolument, dans moins d'un mois.
Alors, Guy, on est parti de ce plat très traditionnel, mais d'abord, vous n'êtes pas lorrain ni alsacien, à ma connaissance.
Non, je suis dauphinois.
Oui, donc c'est pas très loin, mais enfin quand même, c'est pas la même tradition. Hein.
On tuait aussi le cochon à la maison quand j'étais enfant.
Alors, je pense que, enfin, vous ne feriez pas ce pâté lorrain. Qu'est-ce que vous feriez? Et pourquoi, surtout?
Non, mais je crois qu'on a parlé...
La question artistique, enfin.
Pourquoi? Non, c'est-à-dire qu'on a parlé, là, vous avez parlé tout à l'heure de chair à saucisse, on a parlé d'escalope, enfin, on a parlé de viande, mais aujourd'hui, je crois qu'un plat, même un pâté en croûte, peut tout à fait se concevoir avec des légumes. Je crois qu'il y a...
Redites-moi ça.
C'est important d'avoir, il me semble, aujourd'hui, même dans un pâté en croûte traditionnel, on peut y apporter des légumes. Vous avez dit tout à l'heure du liquide et tout. Moi, je rajoute légumes. On peut, je sais pas, je pense au céleri, je pense à l'artichaut, je pense à des choses comme ça qui vont faire qui vont éviter d'avoir une masse trop compacte, qui vont participer à l'équilibre du plat, qui vont participer.
Équilibre, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire d'avoir pas simplement une masse homogène et bien sûr homogène et je crois parfois malheureusement compact,
une pâte, quoi,
ouais, hein, ouais, ouais, un pâté,
une terrine,
ouais. d'apporter une consistance plus moelleuse, plus aqueuse, hein, et d'avoir dans ce lorsque vous le dégustez, d'avoir des séquences de consistance différentes. Et puis d'assaisonnement aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on cuit des viandes, je vais revenir au pot-au-feu, dont je parlais tout à l'heure, les légumes sont là pour apporter bien entendu du goût au bouillon, et puis ils sont là aussi, c'est pour servir de condiment à cette masse de viande. Donc, on peut tout à fait reproduire la même chose dans un pâté en croûte, qu'il soit chaud ou froid.
Et pourquoi vous voulez besoin de condiments? Parce que dans le fond, la viande, c'est un goût de viande. Pourquoi? Vous savez, Kurnansky, le critique gastronomique, disait les choses sont bonnes quand elles ont le goût de ce qu'elles sont. Je suis pas du tout d'accord avec cette idée, mais enfin, à ce moment-là, on devrait manger la viande pour la viande.
Je crois que c'est Georges de Lavaine qui a dit la cuisine, c'est quand même l'art de prendre des produits crus, de bien les assaisonner, de bien les cuire. Et de leur donner un autre goût que ce que lorsqu'ils sont crus.
Ah, ben alors on peut tout démontrer le contraire. Bon, alors non, ce que je conclue, c'est que de façon très personnelle, votre esthétique consiste à prendre la viande et à l'assaisonner, notamment avec des légumes.
Notamment avec des légumes, bien sûr, avec du sel, du poivre, des herbes éventuellement, suivant les préparations. Et encore une fois, suivant les préparations, et je dirais dans la tradition française, on trouve des légumes avec tous les plats. Bien sûr, on peut voir chaque plat de manière indépendante. Mais il faut pas oublier qu'un plat, il n'arrive jamais seul dans un repas. Il faut qu'il soit pris à l'intérieur d'un menu, une entrée, un poisson, une viande, ou deux entrées, un crustacé, un coquillage, enfin, peu importe. Et ça, je crois qu'il faut toujours penser que ce plat n'est pas isolé.
Bon alors, puisqu'un menu c'est un ensemble de plats, je vous propose de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors pour parler de viande ou de poisson, en l'occurrence le thème de base, mais comme Guy Chavoy dévie tout le temps, on l'a bien vu aujourd'hui, le thème de base ça sera le poulet rôti, et j'avais appelé ça, sous-titré, l'intelligence culinaire en action, donc encore de l'intelligence. Donc en compagnie de Guy Chavoy, chef du restaurant qui a ce nom, rue Troyon, et puis de bien d'autres. Guy, à vendredi prochain.
Mesdames et messieurs, le pâté de Pierrette la cuisinière.
Voulez-vous de ce pâté?
Il est doux et velouté.
La croûte en est parfaite.
C'est ma bonne qui l'a faite. Avec un petit jetez-vous. Servez-vous bien mes enfants.
Alors servez-vous encore.
Excellent, succulent.
Un traité culinaire et savant par Hervé Tisse. Réalisation Bruno Sourcils.